Monsieur Philippe Ariagno, directeur du théâtre de la Passerelle, que j'accueille aujourd'hui avec plaisir et que je salue.
Bonjour.
Voilà. On te retrouve tout à l'heure, Philippe, dans quelques secondes. Et je retrouve mon invité du jour, Philippe. Bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Eh bien bien, on n'est pas loin du 148e jour du printemps et début du festival Tous Dehors, donc on est sur les starting blocks.
Alors, tu me tends la perche, c'est fabuleux. Ce fameux, enfin, festival Tous Dehors, enfin.
Eh oui, ben voilà, ça sera donc la 4e édition à partir de vendredi, hein, donc 16h dans l'après-midi on commence et jusqu'à dimanche 18h, donc 2 jours et demi de fêtes intenses, de grandes célébrations des arts de la rue, 44 représentations, 15 compagnies, voilà, ça va encore avec des saveurs évidemment très très différentes et on va sûrement en parler, mais voilà, c'est un festival qui s'installe bien, on est content, il fait a priori beau, donc c'est une grande fête du printemps à Gap maintenant tous les ans, donc voilà, on est vraiment, on a hâte que ça commence.
Alors on va reprendre les choses un petit peu dans l'ordre, puisque ce festival a eu quelques démêlés, je veux dire, pour commencer ça a été un petit peu compliqué, on savait pas si oui, non, et puis comment ça s'est passé en fait depuis le début?
Oui, alors vous savez que en ce moment, et depuis toujours en fait finalement, la culture n'est pas toujours la partie la plus privilégiée. On est toujours un petit peu l'ajustement dans les temps difficiles. Donc c'est vrai qu'un festival, monter un festival, quand je suis arrivé à la tête de la scène nationale, l'idée c'était vraiment de créer une dynamique de en dehors, de sortir ouvrir grand les fenêtres et grand les portes en disant on va essayer de créer un espèce de flux entre le dedans et le dehors, et voilà, le festival Tous Dehors enfin est en illustration la plus forte. Financièrement c'est compliqué puisque on n'a pas de recettes, puisque la volonté, et notre volonté vraiment, c'est d'offrir des spectacles gratuits à des spectateurs qui n'auraient pas forcément eu le réflexe jusqu'à maintenant d'aller voir du spectacle vivant, donc de pousser encore moins les portes d'un théâtre, donc aller dans la rue, sur les places, dans les parcs d'une ville, on touche d'autres gens, on élargit les publics, et ça fait partie des missions d'une scène nationale, et en plus de ça, évidemment, ça correspond aussi à une volonté d'une ville d'animer son centre-ville, enfin, qu'il se passe des choses, donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Difficilement, l'appui des publics, des partenaires publics est difficile, on sait que les temps sont un petit peu durs, donc à un moment donné il a fallu faire appel à aussi des partenaires privés en disant, écoutez, ce territoire qu'on dit enclavé, rural, où il se passe pas grand chose, alors que je pense qu'il se passe beaucoup de choses, est-ce qu'on est capable quand même ici, sur ce territoire, en alliant nos forces, les forces actives privées et publiques, de monter un festival populaire, de qualité, pérenne si possible, évidemment, un événement finalement par et pour les Hauts-Alpins dans un premier temps, et bien au-delà, puisque aujourd'hui le festival Tous Dehors est le festival des arts de rue qui a la plus grande envergure en région PACA, ce qui n'est pas rien, donc à nous de garder cette chose-là. Donc il a fallu faire appel à des privés, et les mécènes des CIM ont été très nombreux à venir au rendez-vous, plus de 35 entreprises, pour une somme de 48 000 euros, ce qui est vraiment beaucoup. Plus, vous le savez, vous rappelez sûrement la plateforme participative. Donc
8 600 euros,
donc ça c'est pas rien non plus. Donc vous voyez, on est pratiquement à 60 000 euros de partenaires privés et de participatifs, dans les cas de spectateurs et d'habitants de ce territoire qui tiennent à ce festival. Voilà, donc c'est toujours un peu délicat. On aura sûrement, on n'a pas encore tout à fait la réponse, et on espère évidemment qu'elle sera positive, des fonds crêtes pour ce festival. Hein, je pense que c'est important de dire qu'au-delà de la partie artistique, que la passerelle, on est finalement un acteur culturel de ce territoire. On est force de proposition dans ce domaine. Ce qui nous paraît vraiment important, c'est que on est là pour aussi participer de l'attractivité du développement économique de ce territoire. On n'est pas hors contexte, on est dans les Hautes-Alpes. On est là, à Gap, on a envie d'être là et on a envie de participer vraiment à une dynamique forte au niveau culturel et artistique.
Alors, avant de revenir sur le sujet profond de ta présence aujourd'hui, deux choses. En fait, la première chose, j'aimerais que tu puisses expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'implique, par rapport au théâtre de la Passerelle, qu'est-ce qu'implique être scène nationale?
Alors ça c'est important parce que c'est vrai que c'est une notion qu'on oublie peut-être. C'est très simple. En fait, en France, il y a 72 scènes nationales, ce qui est pas beaucoup finalement. Hein. Mm-hmm. Il y a beaucoup de théâtres, il y a beaucoup de théâtres municipaux et beaucoup d'autres théâtres, mais 72 scènes nationales. En fait, c'est tout un parcours qui ne vient pas de moi. Hein. C'était le précédent directeur Pierre-André Rézeau qui est arrivé à obtenir ce label, qui est un label, on va dire, de qualité ou de reconnaissance de certaines missions effectuées par ce théâtre. Donc par le ministère de la Culture, il est devenu scène nationale en 2001, le théâtre La Passerelle. C'est pas rien parce que ça, d'abord financièrement, l'État a un plancher qui ne peut pas être, on ne peut pas être en dessous de 500 000 euros de subvention, ce qui est une somme considérable. Et puis avec des missions très particulières, on doit défendre la création d'aujourd'hui. On doit, le théâtre La Passerelle se doit d'être le reflet de la création contemporaine. Alors, moi, je dis la création d'aujourd'hui, ce contemporain, ça fait toujours très peur, d'être pluridisciplinaire, de soutenir des créations, c'est-à-dire que de s'engager sur des projets qui n'ont pas encore existé, qui n'existent pas encore, en pariant sur la création. On doit être avec un public scolaire, on doit être une dimension territoriale, on n'est pas que sur Gap, mais sur tout un territoire, donc avec les excentrés notamment et les curieux de nature maintenant, voilà. On essaie d'avoir répondre à toutes ces missions, donc c'est un énorme volume d'activité. Et puis je vous passe les détails de tout ce qui est action culturelle, évidemment, qui entoure la programmation, des stages, des ateliers, des formations, plein de projets culturels qui sont mis avec les établissements scolaires, de la primaire au lycée. Évidemment, c'est beaucoup de travail qui se voit parfois moins que
programmation. Gros aspect pédagogique, en fait.
Exactement. Bah, on a aussi pour mission de former peut-être les spectateurs de demain, éveiller les gamins à l'art, évidemment, et au spectacle vivant. Et je pense que c'est quelque chose qui construit l'individu. Là, on est un service public d'intérêt général. On n'est pas un théâtre comme un autre. C'est vrai qu'on est là pour faire que la culture fasse partie du quotidien des gens, inciter les gens à venir voir du spectacle vivant, développer son esprit critique, son esprit peut-être d'analyse,
d'observation.
La sensibilité, c'est vraiment une programmation pour tout le monde, pour des gens. Alors, j'ai eu une très belle définition l'autre jour, j'écoutais à la radio une dame qui disait, vous savez, ce mot élitiste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un théâtre élitiste, par exemple? Élitiste, ça voudrait dire que ce théâtre-là s'adresse, la programmation de ce théâtre s'adresse à une population, une classe sociale particulière qui serait au-dessus de tout le monde, etc. Je considère pas du tout ça. Le côté élitiste, ça veut dire que le théâtre La Passerelle et les théâtres en général, hein, dans leur programmation, s'adressent au meilleur de chacun d'entre nous, à l'élite de chacun d'entre nous, c'est-à-dire ce qu'on a de meilleur dans la sensibilité, dans notre pouvoir de réflexion aussi, de réfléchir, d'avoir un regard sur le monde. On n'est pas des animaux, donc je pense que c'est très très important d'à la fois donner des émotions aux gens et en même temps leur permettre de réfléchir. Donc ouais, tout ça c'est une mission et c'est ce qui vaut effectivement le label de scène nationale. On n'est pas du tout dans du divertissement, on peut être avec beaucoup de spectacles divertissants, mais il y a toujours quelque chose de une vraie qualité derrière, quelque chose d'un peu plus profond et du sens, évidemment, qui est essentiel.
Je pense que c'était important de faire cette précision. Deuxième point, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser, pour ceux qui ne le disent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent, mais ça coûte cher. Mais on oublie aussi de dire ce que ça rapporte.
Oui,
et les retombées directes, j'en prends pour exemple Tradine, par exemple. Mm-hmm. Voilà. Donc les retombées de même si elles sont pas quantifiables comme ça, parce qu'on n'a rien forcément pour les mesurer hormis le retour des personnes qui sont concernées, mais c'est quand même quelque chose d'économiquement important pour la ville de Gap.
Oui, mais c'est très important. On a peut-être tendance à l'oublier. Vous vous rappelez peut-être en 2003 quand le festival d'Avignon a été annulé à cause de toute cette crise des intermittents. Ça a été une catastrophe pour la ville, les commerçants, les restaurants, enfin toute l'économie d'une ville qui repose pendant un mois sur un festival très important, reconnu mondialement. Voilà, ça crée des soucis. C'est vrai que la culture, de toute façon, a un impact économique. Le théâtre La Passerelle sur ce territoire, dans la ville de Gap, a un impact économique, ne serait-ce qu'en chambre d'hôtel pour les artistes qui viennent, le nombre de fois
en repas.
Souvent les artistes font leurs courses entre deux spectacles parce que dans la journée ils sont libres, ils sont en tournée, c'est le seul moment où ils peuvent faire. Voilà. Et puis en dehors de tout ce que permet le volume d'activité de la passerelle, permet aussi de maintenir un emploi qui sont des familles, des gens sur ce territoire. Donc voilà, c'est il y a du direct et de l'indirect. Et donc c'est vrai que le festival Tous dehors a généré déjà des réactions très positives de la part des commerçants du centre-ville et des entreprises, j'en parlais tout à l'heure, qui pensent effectivement comme moi que la culture peut être vraiment une chose qui soit une vitrine et une plus-value pour ce département sur un festival qui s'adresse à tous. Voilà, je crois qu'il faut jamais l'oublier. On ne devrait pas finalement, en même temps, moi j'ai toujours un petit peu délicat parce qu'on ne devrait pas avoir toujours à prouver l'impact économique de la culture. On sait que c'est une force en France. Et je dis tout le temps et j'en parle souvent à des élus, ne jamais oublier toutes les politiques culturelles en France depuis Malraux, la décentralisation, le fait qu'il y a des scènes nationales qui étaient anciennement des maisons de la culture très importantes, à irriguer les territoires en France, tous les départements ruraux, c'était une sacrée bonne idée. C'était absolument incroyable de dire oui, les œuvres qui sont montrées dans les grandes villes à Paris, il faut aussi qu'elles soient montrées à Gap ou dans les départements. D'autres départements un peu ruraux. C'est magnifique comme idée. Et c'est pas qu'utopique puisque ça marche et que le théâtre de la Passerelle, qui est rempli à 94%, montre bien que les gens sont là. On va y voir de la culture, de l'art. Donc ne l'oublions jamais. Il faut jamais oublier le passé et comment on en est arrivé là à ce label de scène nationale. C'est très très important et gardons-le, conservons-le, protégeons-le et si possible développons-le.
Alors on arrive au cœur du sujet. Tout un week-end de fête avec de grands artistes que tu vas nous présenter.
Oui, week-end de fête, effectivement, parce que je crois que c'est le premier mot qui vient à l'esprit quand
plaisir
on regarde,
et fête.
Voilà, plaisir et fête, voilà. Avec cette mission, je disais tout à l'heure, de la scène nationale, d'être exigeant dans le choix des compagnies, comme on le fait pour les choix des spectacles dans les murs, voilà, ce sont les meilleures compagnies d'aujourd'hui dans les arts de la rue, en tout cas parmi les meilleures, hein, puisqu'il y en a quand même beaucoup, le théâtre de rue en France. Quand on dit le théâtre de rue, hein, c'est toutes les disciplines, hein, c'est danse, musique, théâtre et cirque. Donc voilà, ce sont des équipes qui se produisent dans les festivals internationaux, qui sont là. Il y en a 15 cette année, enfin 14 et 15 spectacles. Et je vous propose qu'on rentre un petit peu dans les détails, si vous voulez bien.
Eh bien, allons-y.
Donc, je ne sais pas si on le fait de manière chronologique, mais on va dire que ce festival, je le redis de manière globale.
Tu fais comme tu le sens.
D'accord. De manière globale, s'adresse évidemment à tous. Là, c'est, on le veut familial, on le veut. Voilà, vous pouvez venir seul, en amoureux, en famille, etc. Évidemment, la gratuité fait qu'on peut voir beaucoup de spectacles dans la journée, hein, puisqu'on commence tôt dans l'après-midi du vendredi et même samedi matin à 11h jusqu'à 22h, donc, et que vous avez après tout le dimanche après-midi. Alors peut-être rappeler que ce festival se déroule dans trois endroits différents. On a tellement eu de public l'année dernière, donc on essaie de trouver une autre énergie dans les flux et la répartition des publics. Donc cette fois on a mis trois endroits: Charence, le centre-ville et la Pépinière, ce qu'on avait un peu fait avec Carabosse et les Illuminations de Feu. Donc chacun va pouvoir voir des spectacles dans ces trois lieux. On est content parce que je trouve que ça, le fait d'être à Charence et au centre-ville, ça montre un peu la singularité d'un festival qui est peut-être entre urbain et nature, ou début de nature. On est dans la montagne déjà, donc c'est peut-être un caractère de ce festival qu'il faut garder, en tous les cas que j'ai bien envie de conserver.
Oui, puis c'est aussi une façon de valoriser un peu des lieux qui sont un petit peu à la fois proches et à la fois excentrés, puis surtout qui sont prisés des gars pincés, quoi.
Oui, c'est vrai que le week-end, le domaine de Charence est particulièrement fréquenté, donc mettre des spectacles là-haut en dehors du cadre magique dans lequel on les pauses, eh ben, ça permet de croiser des publics, des gens qui sont plus avertis, qui ont déjà repéré qu'il y avait des choses à Charence, puis des gens qui se baladent peut-être à Charence et qui voient qu'il y a des spectacles et tout d'un coup vont s'arrêter, vont être curieux de voir ce qui se passe. Et voilà, ça crée peut-être des futurs spectateurs ou des vocations et des envies de voir d'autres spectacles. Donc ça, c'est aussi important pour nous de croiser en permanence ces publics. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par... Alors évidemment, il y en a pour rire, il y en a pour pleurer, il y en a pour réfléchir, il y en a pour se révolter aussi. Tout est un peu...
C'est l'idée.
Tout est un peu... Voilà, il faut que toutes les émotions, autant que les saveurs données dans ce festival, soient aussi autant d'émotions qui brassent en nous, qui nous touchent en profondeur, qui nous font éclater de rire ou pleurer. Voilà, ça c'est important, être à entier, ce supplément d'âme que donnent les spectacles vivants. On doit le ressentir tous et chacun au cours de ce week-end.
Je pense, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que derrière chaque spectacle, derrière chaque rire, derrière chaque larme, derrière chaque émotion, il y a un ou plusieurs artistes. Que ces gens-là travaillent toute l'année pour préparer des spectacles qui sont grandioses, qui sont émouvants et qui même quand ils ne sont pas parfaits, sont des dentelles d'un travail phénoménal. Mmh. On les appelle des intermittents, on les appelle comme on veut, mmh. mais n'empêche que ce sont des gens qui travaillent et qui sont là pour nous divertir et pour nous sortir un petit peu de la fange, je vais dire, journalière qu'on peut nous servir sur les médias et ailleurs. Donc ces gens-là, moi j'ai vraiment envie de les saluer.
Oui, c'est vrai. Bon, on va dire que c'est des artistes professionnels qui ont fait le choix d'une certaine précarité. Vous parlez de l'intermittence, c'est un peu ça. C'est-à-dire que des gens décident de travailler, de faire de l'art, du théâtre, de la danse, du cirque ou de la musique. Eh ben, il y a des moments où on travaille, on fait des concerts, effectivement, il y a des dates de représentation. Et puis entre ces dates-là, on ne fait pas rien, on va pas à la plage, on travaille encore, on cherche, on lit, on s'entraîne. Enfin voilà, c'est et le statut intermittent permet, pendant ces périodes entre deux dates, de pouvoir continuer à travailler quand même et de vivre et de continuer à exercer son art pour qu'un jour, à un moment donné, de toute façon, il y ait quelque chose sur le plateau ou dans la rue pour le cas de tous dehors. Donc voilà, c'est important. De toute façon, la culture en France est basée là-dessus. C'est comme ça. Ça date de pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date des années 30, au moment où les grandes télévisions voulaient ce statut et des gens avec une certaine, on va dire, des CDD, des choses assez précaires. Mais c'était un vrai choix en tous les cas. Et ce choix-là, il faut le saluer. C'est au grand bonheur de tous. Des intermittents techniciens ou artistes permettent que des théâtres fonctionnent, permettent à des compagnies de tourner. Bon, voilà, on va pas refaire la question, l'éternel débat. Je crois que c'est vraiment important quand même de le repréciser. En tous les cas, ils sont disponibles. Leur plus grande joie, et comme la nôtre d'ailleurs, hein, c'est de se confronter à des publics. Donc nous, confronter des œuvres artistiques à des publics, c'est notre passion, c'est notre raison de vivre dans ce théâtre. Toute l'équipe est derrière pour ça. Et voilà, je peux commencer peut-être à vous parler de ces 15 spectacles et 14 compagnies. Donc on va commencer avec, je le fais pas dans l'ordre chronologique, hein, les gens peuvent consulter la programmation sur le site de La Passerelle. Il y a pas mal de plaquettes qui circulent dans la ville et dans tout le département. Donc moi j'aurais peut-être juste un conseil à donner aux gens. Regardez la programmation, regardez chronologiquement tous les spectacles, cochez ce que vous voulez voir en avance, préparez votre week-end pour pouvoir voir un maximum de choses. Si vous vous organisez, si vous arrivez à cocher, à dire à telle heure je vois ça, hop, je passe de la Pépinière, Centre-Ville, éventuellement à Charence, vous allez pouvoir pratiquement tout voir. Donc il faut juste s'arrêter 10 minutes sur la programmation et de faire un petit guide du week-end. Je sais qu'il y en a qui le font. Les Gapensais, les Walpins deviennent des vrais festivaliers. On l'a vu déjà l'année dernière. Donc, je les encourage à continuer à faire ça pour en profiter un maximum. Donc, ce qu'on pourrait dire sur la programmation, on va dire qu'il y a pas mal d'artistes qui sont, on pourrait les qualifier de clowns, on va dire. Mais les clowns, ça veut dire tellement de choses. Il y a des clowns tristes, il y a des clowns hilars. Enfin, il y a plein de façons d'être un clown. Et la programmation du théâtre La Passerelle et de ce Tous Dehors, on comporte plusieurs. Alors, je commencerai par La Cuisinière, qui est une histoire à voir en famille, évidemment, d'une jeune femme qui reçoit dans les années 30 aux États-Unis une cuisine flambant neuve de son mari, évidemment, qu'il aime, mais qui n'est jamais là, qui va essayer de réaliser une recette d'une tarte caramel chocolat meringuée sur lit de pomme. Déjà, ça me paraît très compliqué, enfin, en tout cas pour moi. Et évidemment, elle va se servir de cette cuisine incroyable, robotisée, etc. Et je vous dis pas évidemment ce qui va se passer, mais quand on sait pas cuisiner, on a beau avoir une belle cuisine flambant neuve, ça tourne souvent au carnage, et c'est un peu le cas. Et c'est ce spectacle La Cuisinière, vraiment à voir pour les petits, des petits aux grands, hein, c'est vraiment tout public. Et je dirais dans la tradition des arts de la rue, hein, avec des choses qui explosent, du feu, de l'eau, enfin plein de choses qui font que c'est un spectacle efficace, drôle, une formidable comédienne, Bénédicte, jolie comme un cœur en plus, et qui est vraiment une présence sur scène étonnante. Voilà, La Cuisinière, et ça sera sur l'esplanade du conseil départemental, hein, le samedi, enfin le vendredi d'abord à 17h, et le samedi deux fois dans la journée, 15h à 18h30. Je vais peut-être pas dire les dates à chaque fois, chacun pourra en consulter.
C'est, hein, plus l'NT, enfin voilà. La pratique, hein, voilà. Enfin, je veux dire.
Après, je pourrais dire un autre clown presque à l'opposé de la cuisinière, c'est le spectacle Urban et Hors Beach de clown qui s'appelle Bobitch, Boris Arquier. Un gars absolument incroyable qui, je crois, donne des lettres de noblesse à ce qu'on pourrait appeler un clown. Alors, c'est un monsieur qui a été très marqué par la maladie d'Alzheimer de son père. Donc, vous savez, ce moment où peut-être la personne âgée retourne un petit peu à l'enfance. Donc, il est un clown assez âgé, mais qui est resté quand même enfant. Il s'est beaucoup inspiré, j'allais dire, de ça. Et du coup, ça donne un clown très, très fort qui est un peu... l'éponge du monde, qui est quelqu'un qui se surprend, qui est curieux, qui a envie de faire une petite virée nocturne avec son fauteuil roulant. Et Boris Arquier, Bobitch est vraiment archi doué. C'est quelqu'un qui nous fait passer d'un endroit à un autre, un claquement de doigts, par exemple d'un sous-sol d'une boîte de nuit à une rue dans une ville, mais vraiment avec rien. Il est beatboxer, il fait des percussions corporelles, il fait tous les sons, et il a ce personnage qui navigue comme ça dans la nuit. Hein, Urban et Orbit, c'est vraiment dans la nuit. Et c'est un clown. Alors ça, c'est le seul spectacle payant du festival. On le met dans la cour de l'usine Badin parce qu'il faut que ça soit vraiment pour un public restreint de 250-270 personnes. Pas trop pour les enfants, c'est déjà un clown un peu... C'est pas sérieux, mais voilà, c'est un clown qui a une profondeur, une densité que les petits enfants ne percevraient pas, mais voilà. Alors, en tout cas, c'est un quelqu'un de formidable, il est chaque fois au festival d'Aurillac ou de Chalon, c'est vraiment quelqu'un de remarquable. Dans le même idée, un autre clown, c'est Ma Vie de Grenier, avec Stéphane Filoc, qui est en tournée excentrée actuellement. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce soir, il sera à Savines. Ne manquez pas ce clown, ça vous fera un spectacle de moins à voir, peut-être au festival, pour pouvoir vous organiser. Et ça, c'est pareil, c'est un autre clown, espèce de clown de tous les jours, quelqu'un qui vient faire un vide-grenier, évidemment, c'est monsieur Gaëtan Le Croteux qui est jamais au bon moment, au bon endroit, et qui va installer son stand de vide-grenier une semaine avant le vide-grenier. Donc évidemment, il est en avance et il va quand même parler de ses objets, et à chaque objet, le prétexte de raconter une partie de sa vie, de son histoire. Et il est très drôle, il se fait des cascades, il est un peu emprunt, il est un peu le bouc émissaire, le gars jamais à sa place, un peu, on va dire, gentil, trop gentil. Et quand on est trop gentil dans un monde un peu de brut, voilà, à un moment donné, on arrive quand même à se faire un peu... secouer. Et donc du coup, du clown drôle, maladroit, un peu dans les cascades de rien, ces objets rigolos, etc., il nous entraîne petit à petit vers une très forte émotion, parce que quand on voit quelqu'un, quelqu'un qui est un peu mal ou dans une mauvaise situation, il est tellement dans une mauvaise, heureusement l'être humain quand même retrouve une certaine empathie pour les gens qui sont peut-être un peu faibles ou qui se font avoir. Donc voilà, on passe dans une émotion très très riche, du rire vraiment assez fort, à une émotion très entière, très humaine. Et Ma Vie de Grenier de Stéphane Filoc, de Carnage Productions, était aussi un très bon spectacle. Et vous voyez, par rapport à ce que j'ai dit avant, tout à fait un autre univers de clown. Alors je mettrai pas forcément, il y a le clown, évidemment, il y a un spectacle qui s'appelle Les Ailes d'Obus, qui est aussi un clown, mais c'est aussi un virtuose du monocycle sur trampoline. Donc vous voyez, allier les deux agrès, le monocycle et trampoline, déjà sans
ouais, monocycle, déjà, c'est pas évident. Improbable, ouais.
Donc évidemment, il sort d'une grande école de cirque, il fait ça très très bien. Et c'est pareil, dans un espèce de personnage un peu esthétique 1900, il va arriver à boire, il est au bord dans un café à boire un coup, et une mouche vient l'embêter et tourner autour de lui, et cette mouche là et son énervement provoquent évidemment ces fulgurances acrobatiques entre le monocycle et le trampoline. Là aussi c'est pareil, c'est à voir avec toute la famille. Je pourrais dire aussi d'autres clowns intéressants qui s'appellent The SWAT. Alors le SWAT, c'est
eux ils ont l'air excellents.
Voilà, alors ça c'est assez intéressant. J'espère que nos amis policiers et des gendarmes pourront venir voir ce spectacle, parce que c'est quelque chose qui tourne en France depuis une bonne dizaine d'années maintenant, qui a vraiment cartonné dans tous les festivals partout. Ils ont fait même des départs à la retraite d'un colonel. Ils sont invités dans une espèce d'autodérision on va dire du SWAT. Ça serait un peu l'équivalent du GIGN en France aujourd'hui. Donc espèce de 4 recrues des forces spéciales en entraînement, et 4 jeunes recrues évidemment prêts à essayer de voir s'ils peuvent faire des interventions. Évidemment, quand on commence et qu'on est un peu macho, 3 hommes et une femme, etc., il se passe d'autres choses, des cascades pas toujours réussies, un entraînement qui tourne un petit peu au désastre. C'est très drôle, c'est à voir vraiment en famille, ça sera derrière le conservatoire. Venez amener vos enfants, vous allez voir que ça fait du bien de rigoler sur ces 4 personnages qui sont de bonne volonté, mais qui sont encore pas tout à fait bien entraînés. Et puis je pourrais dire aussi peut-être... pour parler un petit peu des choses très visuelles aussi, le snob, alors rien que le nom, je trouve que c'est un programme, ça pourrait vous le dire, le snob, c'est le service de nettoyage des oreilles bouchées. Donc c'est une fanfare, si je voulais raccourcir, ça pourrait dire que c'est une fanfare, mais c'est surtout des gens, d'abord des très bons musiciens, qui vont apparaître trois fois dans la ville, avec deux spectacles, Opus Ulix, Opus 2, donc une déambulation avec des robes d'une certaine manière. Ils sont, je veux pas trop en dire, ils se déplacent de manière très particulière, ils sont un peu comme des êtres flottants ou glissants dans la rue. Je vous verrai, vous découvrirez assez vite pourquoi et comment. Donc il y aura une déambulation avec plutôt un concert, c'est des cuivres avec plutôt assez extravagant et qui joueront plutôt du Led Zepp, du Steve Reich, du Frank Zappa au moment de la journée, hein, entre on va dire la place de la République et la place Nelson Mandela. Et le soir, là, ça sera un ballet complètement irréel, hein, qui s'appelle Ulix Glissando. Ils ont une autre tenue qui est plutôt sombre. Ils travaillent avec du feu, ils font des chorégraphies et ils jouent de la musique. Ça sera dans la zone d'activité du parc de la Pépinière. Ne ratez pas, ça va être le moment qui couronne un peu la journée. À voir nombreux, évidemment, parce que ça sera sur un espace plutôt assez grand. Donc, et puis ils apparaîtront en fanfare un peu ordinaire, un peu discrète, pas discrète, mais en tout cas un peu ordinaire au moment du marché samedi matin. Et puis j'ai envie peut-être de parler de deux choses importantes. On a trois spectacles de danse cette année. Alors encore une fois, la danse, il peut y avoir un grand écart très important, même dans une même discipline qui est la danse. Et cette fois, on en a trois. Alors je commencerai peut-être par Around Tango Sumo, la compagnie Tango Sumo qui se présentera au Théâtre de Verdure. Et ça, c'est une chose absolument incroyable pour ceux qui ne connaissent pas la danse. Sept danseurs qui, dans un seul souffle, et un seul mouvement de 35 minutes, enfin un seul mouvement, en tout cas un mouvement qui ne s'arrête pas, ouais, pendant 35 minutes, nous exécute une espèce de transe, une montée en transe absolument incroyable, avec un public complètement autour, on les entoure dans un espèce de carré allumé. C'est très très fort, c'est très puissant, c'est une énergie absolument incroyable. Venez voir Around Tango Sumo, et pour ceux qui encore une mauvaise idée ou une pas d'idée du tout peut-être de la danse d'aujourd'hui, Tango Sumo est un exemple vraiment à aller voir, à découvrir. Ça peut donner des envies à d'autres de voir d'autres spectacles de danse. On a aussi un duo qui s'appelle de la Débordante Compagnie. J'adore ce qui a fait beaucoup le buzz l'année dernière dans le festival de Chalon. Ce qui m'est dû, c'est une danseuse et un comédien ex-circassien qui essaie de répondre à la question. Alors c'est pour ça que je parlais du sens tout à l'heure, et c'est très important. C'est très visuel puisque c'est de la danse et il y a du texte en même temps. C'est cette porosité aussi entre les disciplines qui m'intéresse beaucoup en tous les cas pour ce festival, et qui va essayer de répondre à la question simplement: qu'est-ce qu'on me doit, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je peux faire, notamment pour la planète là, cette prise de conscience que ça va pas et que qu'est-ce que je dois y faire, je dois toujours me plaindre que c'est les autres qui doivent s'en occuper, et moi quel est mon rôle là-dedans. Donc elle essaie de répondre à cette question là et c'est un peu l'histoire, cette prise de conscience du rôle qu'on a à jouer sur cette terre ensemble ou seul, etc., et essayer de bouger. Et c'est très très fort, c'est très beau, vraiment il y a eu des critiques absolument incroyables de spectacle. Venez voir ce spectacle, Ce qui m'est dû, et ça sera j'oublie toujours, à la Providence. Voilà, ça sera une chose importante.
On le voit, une grande diversité d'artistes. En tout cas, ce qu'on peut saluer, c'est tout le travail de mise en place, c'est tout le travail d'interprétation. Je crois que les gars pensés vont passer un week-end assez fabuleux, quoi.
Ah oui, je crois. Et puis j'ai pas encore parlé de tout, mais c'est vrai que il y a aussi à Charence, il y aura trois spectacles à Charence, le CRI, trois trampolines, un machinois, un slammer, Arthur Ribaud, champion du monde d'improvisation, qui donne tout le rythme au spectacle. C'est absolument incroyable. C'est sur le Pré de la Danse et ça sera samedi et dimanche à Charence. On a un vieux monsieur je dis vieux monsieur, s'il m'écoutait, il serait peut-être pas content, mais en tous les cas, une figure du théâtre de rue en France. Venez découvrir Jean-Georges Tartare, qui est un conteur, un griot blanc, une espèce de vieille canaille, un philosophe qui a beaucoup voyagé entre l'Afrique et la France et qui va être sous le pied d'un grand sapin d'Espagne à Charence, nous raconter toutes ses histoires, ses tribulations dans le monde et notamment en Afrique. Il a la langue bien pendue, il peut être impertinent, en tous les cas, ça fait du bien de l'écouter, c'est très 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 fort et c'est vraiment quelqu'un qui a fait partie de toutes les grandes aventures du théâtre de rue en France depuis maintenant plus de 30 ans. On a un petit spectacle de danse, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, qui s'appelle Ronde, la compagnie Rouge et Léa, deux acrobates danseuses et un musicien en direct. qui nous parle de la fraternité. Qu'est-ce que c'est d'être frère et sœur? C'est très doux, c'est acrobatique et en même temps c'est très tendre. On a envie après d'appeler son frère ou sa sœur parce que l'émotion que ça dégage de cette force de la fraternité, c'est important aussi de s'en rappeler. Et puis je ferai un petit mot quand même aussi pour un spectacle incroyable. N'ayez pas peur de sa durée. C'est vrai que le spectacle dure 1h30. C'est la saga, la grande saga de la France-Afrique. Écoutez, venez voir cet acteur complètement dingue qui s'appelle Jérôme Colou, qui en 1h30 nous raconte toute l'histoire de, un peu, on va dire, compliquée de la France et de l'Afrique depuis De Gaulle jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi cette relation qu'on a, c'est ce qu'on a appelé la France-Afrique, c'est quoi les intérêts qu'on a en Afrique, pourquoi à un moment donné la France a parfois soutenu des dictateurs, pourquoi parfois elle n'est pas intervenue alors qu'elle aurait dû. Il y a des intérêts économiques, tout le monde le sait, enfin, on ne découvre rien de nouveau, etc. En tous les cas, Jérôme Colou s'empare de cette grande saga de la France-Afrique, parce que franchement c'en est une, en imitant tous les présidents de la République, de De Gaulle à Sarkozy, en passant par Hollande ou Giscard d'Estaing, et ça qui nous rappelle les grands-mamans de cette politique franco-française en Afrique. C'est absolument incroyable, c'est à tambour battant, il sait tout faire, il joue de la musique, c'est quelqu'un qui est multifar, l'homme orchestre, et il nous tient du début à la fin sur ce spectacle, entre fiction et réalité. C'est vraiment absolument remarquable, c'est les trois points de suspension, c'est une compagnie assez célèbre en France.
En tout cas, il y a une chose est sûre, Philippe. C'est que je sais, j'allais dire vous, je sais plus, on se dit tu, on se dit vous, c'est pas très,
tu,
c'est pas
très bien.
Important. on sent un directeur de théâtre impliqué, passionné, passionnant, qui connaît son sujet sur le bout des doigts. Quand je dis son sujet, c'est pas le contenu, non, c'est le théâtre. Tu vis théâtre en fait.
Ah oui, bah ça, je peux vous dire qu'on peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné déjà, parce que ça demande beaucoup de temps. Vous savez, il y a une chose qui est très importante pour nous, les spectacles on les choisit pas sur catalogue, les spectacles on les voit avant, donc ça veut dire beaucoup de déplacements, on voit beaucoup de spectacles pas bons pour essayer d'en trouver des bons, parce qu'il y a évidemment, donc il y a un gros filtre qui est fait, c'est notre travail aussi, ce que je disais tout à l'heure, cette passion de pouvoir partager des œuvres artistiques avec des publics est le cœur de nos métiers et évidemment de cette mission d'intérêt général qu'on a. On met pas n'importe quoi en face des gens, donc il faut les voir, c'est notre métier, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier, donc on sait à peu près ce qu'on peut montrer, à quel moment, à quel endroit, à quel public, donc c'est très très important qu'on voit tous ces spectacles. Et puis je dis toujours souvent à des gens qui me disent, ah c'est bien ton métier, tu sais, tu vas voir des spectacles, alors c'est pas toujours marrant parce qu'on est jamais à la maison et puis qu'on voit beaucoup de choses pas bien quand même, mais c'est vrai qu'on a un double privilège, d'abord pouvoir avoir des spectacles formidables. Et quand on est dans la salle, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai comme chance de voir ces spectacles ?» Et la deuxième chance et le deuxième privilège, c'est de dire « Et en plus, je vais pouvoir le faire partager à des publics à Gap, dans les Hautes-Alpes, etc. » Et ça, je peux vous dire que c'est presque aussi fort que le premier privilège. Donc ces spectacles sont choisis avec toute l'attention possible. On sait que les saveurs données sont des équilibres et des cohérences importantes pour construire un festival et l'histoire d'un festival. J'ai pu vous parler des mystérieuses coiffures de Christophe Païva qui va être là à faire des coiffures dans la rue pour les enfants ou les femmes, des coiffures somptueuses, donc plein de choses. On essaie de trouver, de dire, de faire dire aux gens et de que ça bascule définitivement pour que ce festival s'installe durablement, qu'on en soit fiers.
C'est important, voilà. Ça, oui, tu le disais hier.
Voilà, que ce soit les publics, les élus, les organisateurs.
La pérennité. Ouais.
La pérennité. Un festival, il s'installe durablement à partir de 6-7 ans. On en est à 4 ans. C'est encore fragile. Il faut croire à ce festival parce que je pense qu'on a de l'or dans les mains. Je pense que les élus l'entendent. Je pense que les entreprises privées l'ont aussi entendu, que c'est important pour ce territoire. Et puis derrière, j'ai une équipe passionnée qui est au taquet aujourd'hui. Et je voudrais d'ailleurs les saluer et les remercier parce que c'est beaucoup de travail au moment où il va falloir présenter la saison prochaine, écrire les textes de la plaquette, etc. Il y a beaucoup de choses qui se précipitent. Donc c'est vraiment une volonté qu'on a d'être dans la rue pour tous. Ne ratez pas ce festival, venez nombreux, parlez-en autour de vous. Vous êtes les publics, j'allais dire, je m'adresse aux auditeurs, mais aux auditrices, c'est vous les ambassadeurs de ce festival et qui feront sûrement que ce festival pourra rester et monter en puissance sur ce département. Et on en sera tous très fiers.
Un mot d'ordre pour ce week-end.
Sortez, Sortez tous dehors, évidemment, Non, non, bien sûr, et sortez en famille, profitez-en, rencontrez-vous. C'est marrant dans les Kiss Kiss Banker, dans la plateforme participative, on a eu une fois un gars qui a répondu à un petit commentaire, qui a dit, mais bien sûr que je voyais ce festival, d'abord c'est un festival que j'ai adoré, etc. Et en plus, j'ai rencontré mon amoureuse, donc cette année, on y retournera en couple avec mon amoureuse que j'ai rencontrée dans le tous dehors, donc voilà. Allez tomber amoureux pendant le festival Tous Dehors. En tout cas, allez vous faire plaisir. Le spectacle vivant, c'est ce supplément d'âme qu'on peut avoir dans son quotidien, dans cette morosité dont vous parliez, peut-être. Voilà, sortez, mangez du spectacle vivant.
Philippe, merci.
Merci à vous.
Merci de ta présence, oui. Merci de ton sourire aussi.
Et on essaye,
Il fait beau encore. Voilà. En tout cas, on le redit, Tous Dehors ce week-end. Encore un grand merci et bravo pour tout le travail que vous avez réalisé, à la fois sur le territoire pour ce festival, mais aussi tout ce que vous réalisez, ton équipe et toi, au Théâtre de la Passerelle. Merci pour tout.
Merci, au revoir.